Bonsoir, comment allez-vous? J'aime quand les médias nous disent ce qu'il ne faut pas faire et que je ne le fais déjà pas. Par exemple, ne pas décapsuler les bouteilles avec les dents, ne pas claquer ses enfants, ne pas s'exposer au soleil. Je ne le fais pas, j'ai l'impression d'être parfaite, c'est délicieux. Alors, quand Le Parisien a publié mercredi matin, jour des enfants, la liste noire des aliments à éviter, je me préparais à lire un tas de noms de produits que je n'ai même jamais achetés de ma vie tellement ils sont mauvais ou aberrants. Je me préparais à un nouveau pas vers la perfection. Quelle ne fut pas ma stupeur en lisant Smokes de Kellogg's, Griottine au blé complet Pasquier, Dosette Nescafé, Twix, Mr. Munch, Souproico, Cordon Bleu, Père d'Audi, Bâtonnet Surimi, Perle de Léoplet, Vache qui rit, mais je les ai tous! Absolument tous! Le mal est dans ma cuisine. Il faudrait un exorciste certifié pour bouter ces démons hors du frigo. Cet article est sorti mercredi. Tous les exorcistes doivent être déjà surbookés. Mais comment faire? Mais comment réagir? Que vont dire les enfants quand je vais leur dire que tout ça n'est pas bon, n'est plus bon?
Bonjour, je m'appelle Ariane, j'ai 7 ans et je voudrais savoir pourquoi on a chacun des goûts différents.
Bonsoir Ariane, Patrick MacLeod. D'abord, Ariane a-t-elle raison? A-t-on chacun des goûts différents?
On a vraiment tous des goûts différents et très différents, beaucoup plus que ce qui nous paraîtrait simple à accepter. C'est-à-dire, c'est pas un peu différent, souvent c'est complètement différent.
Ce qui explique qu'il y a des gens qui vendraient leur âme pour du saucisson et d'autres pour une crème caramel.
Là, on mélange une autre chose qui est le fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Dans notre cerveau, il y a deux systèmes très différents l'un de l'autre. Il y a celui qui nous permet de reconnaître un aliment en percevant un goût qui est caractéristique de cet aliment. Et d'autre part, il y a le système du plaisir qui fait que, dans certaines circonstances, on éprouve du plaisir et dans d'autres circonstances, on éprouve de la douleur ou de la peine ou du dégoût, etc. Et pour les aliments, eh bien, l'idéal est que les deux se rejoignent, c'est-à-dire que je connaisse l'aliment qui m'est proposé et que je l'aime. Ça veut dire que ça me fera plaisir d'en manger.
Mais là, ce que vous voulez dire, Patrick MacLeod, c'est qu'à la limite, devant une même crème caramel, vous allez la goûter bleue et moi, je vais la goûter
absolument
rouge.
Absolument. Si on était en couleur, ça serait aussi différent que ça. Alors, il est arrivé récemment, dans les 10 ou 15 dernières années, qu'on a compris ce qui fait ça dans notre organisme, alors qu'avant, on ne pouvait que le constater. Et on l'a compris depuis les énormes progrès de la génétique qui font qu'aujourd'hui, on est capable d'écrire de manière assez complète la totalité des 30 000 gènes qui caractérisent l'humanité, ce qu'on appelle le génome humain. Eh bien, pour le goût, on en a une cinquantaine qui sont chargés de nous munir d'environ 50 récepteurs différents. Et quand on a mesuré en laboratoire si tous les gènes étaient pareils, on s'est aperçu que non, pas du tout. C'est bien des gènes du goût, mais ils ont plein de petites différences qu'on appelle polymorphisme. Et ces petites différences se traduisent par des récepteurs qui ne sont pas les mêmes, alors ces récepteurs ne vont pas répondre de la même façon aux mêmes molécules. Et on a tous quelque chose qui nous caractérise comme nos empreintes digitales, qui fait qu'on est entièrement différent. Du point de vue goût, ça peut faire plaisir à certains de le savoir, chacun de nous est unique.
Mais bien sûr que chacun est unique et dans tous les domaines, et c'est tellement bon de le rappeler. Patrick MacLeod, président de l'Institut du goût et spécialiste de neurobiologie sensorielle. Ce soir, nous saurons d'où viennent les langues, françaises, italiennes, tout ça, c'est ce qu'a dit Jean, tout ça. Nous saurons avec Frédéric Ancel s'il y a des pays qui n'ont jamais, absolument jamais fait la guerre. Et nous saurons avec Raymond Piccoli pourquoi les éclairs n'ont pas tous la même couleur. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants posent des questions, des spécialistes répondent.
Oui, allô, je m'appelle Pablo, j'ai 13 ans et j'aimerais comprendre quelle est la différence entre les chiites et les sunnites. Merci beaucoup.
Bonsoir Pablo. La différence entre les chiites et les sunnites. Sabrina Mervin, vous êtes chargée de recherche au CNRS, vous êtes historienne et ethnologue. Voilà une question claire de Pablo.
Oui, absolument, c'est très clair et en plus, on y pense beaucoup en ce moment. On parle beaucoup des sunnites et des chiites, qui sont donc les deux grandes branches de l'islam. Bon, d'abord, il faut savoir qu'il y en a une troisième, qui s'appelle l'ibadisme, mais qui est vraiment très, très minoritaire. Disons que la majorité des musulmans sont sunnites, que les chiites représentent à peu près 15 à 20% de l'islam dans le monde, et puis ensuite, on a une branche minoritaire qui est celle des ibadites. Alors, En fait, il y a finalement au quotidien assez peu de différences. Tous les musulmans ont le Coran comme livre saint, comme livre sacré, dont ils vont suivre les préceptes, et ils ont Mohammed, Mahomet, comme on l'appelle aussi en français, comme prophète. Alors, il y a eu justement des divergences lorsque l'islam s'est formé. Bon, comme toutes les religions, l'islam ne s'est pas formé du jour au lendemain. Il y a une construction des idées, des doctrines, et tout ça s'est fait dans un milieu social bien particulier, avec des rivalités, des concurrences, etc. Donc, quand l'islam s'est formé, il y a eu un problème sur la succession du prophète Mohammed. Parce que celui-ci n'avait pas désigné son successeur et il n'avait pas laissé de testament. Donc c'est sur la question de l'autorité, en fait, de l'autorité religieuse et de la manière dont on va, d'une part, l'élire ou le désigner, le nommer, ce successeur, qu'il y a divergence, et aussi sur l'identité. Qui est-il? Quels sont les critères qu'on doit mettre en œuvre pour l'élire ou le désigner? Voilà. Alors là-dessus, les chiites et les sunnites ont eu des divergences.
Et qui sont arrivés les premiers? Quels sont les séparatistes?
Alors justement, on dit toujours, c'est-à-dire que comme l'islam sunnite est majoritaire, on va toujours parler du chiisme comme d'un schisme, c'est-à-dire comme d'une séparation.
Ça ressemble.
Voilà. En plus, ça ressemble. Ça vient pas du même. Ça vient pas du tout de la même racine. Voilà. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment voir, c'est que au début de l'islam, il y avait un creuset commun, disons, d'idées qui circulaient beaucoup, avec beaucoup de dialogues, de confrontations, qui se sont, bon, comme je l'ai dit, greffées sur des problèmes de rivalité de personnes et de groupes, de clans, et qui ont fait qu'il y a eu des séparations et des divergences. Mais il y en a pas un qui est premier, en fait. Hein. Au début, c'était vraiment tout le monde était sur le message prophétique.
Alors, il y a Mahomet. Donc, un problème quant à la succession de Mahomet, mais qui est l'autre? Ali, par exemple, c'est qui?
Alors, Ali, justement, c'est celui que les chiites ont choisi pour succéder à Mahomet, en disant que la légitimité, c'était celle de la famille proche du prophète. Ali est son gendre, donc marié avec sa fille Fatima, et son cousin. Et donc, pour les chiites, c'est Ali le premier imam, puisque donc, eux, ils utilisent le mot imam. Et ensuite, les autres imams sont des descendants de Ali et de Fatima. Alors que les sunnites, eux, ont un calife qu'ils ont élu parmi les compagnons du prophète.
Ah oui, d'un côté, on élit, et de l'autre côté, c'est héréditaire.
C'est héréditaire, et dans les doctrines chiites, il est dit que c'est en fait divinement inspiré aussi. C'est Dieu qui décide.
C'est comme dans beaucoup de familles, hein, finalement. La succession est parfois une pagaille pas si joyeuse que ça. Sabrina Mervin est historienne et ethnologue. Elle a écrit « Histoire de l'islam » et c'est édité chez Flammarion. Banale histoire, tiens, justement, puisque nous parlions de beaucoup de familles. Judge Joah et lieutenant Nicholson.
Personnellement, j'aurais pu naître allemand. Personnellement, personnellement, je pourrais venir du Mali. Personnellement, personnellement, j'aurais pu naître allemand. Ce n'est qu'une banale histoire coloniale. Personnellement, j'aurais pu naître allemand. Ce n'est qu'une banale histoire coloniale. Peau de banane pour les Allemands. Je suis Saint-Franc, mais ils ont Ayo. Peau de banane pour les Allemands. Je suis Saint-Franc, et ça c'est pas triste. L'autre soir en rentrant,
qu'il tremble baladant.
Je crois cet Allemand,
double mais trop grand.
Ce grand touton
chantait à tue-tête,
tombait sur le temps
avec le bon ton.
Steve mon frère, même comme on n'a pas la même mère. Steve mon frère, même comme on n'a pas le même père. Steve mon frère, même comme on n'a pas la même mère. Même comme on n'a pas le même père. Bon, il y a des fautes de syntaxe.
Personnellement, je pourrais venir du Mali. Ce n'est qu'une banale histoire parallèle. Personnellement, pourrais venir du Mali. Je viens des Antilles. Faut-il un sous-titre? En rentrant,
qu'il tremble baladant,
je crois ce bambara,
type carrément dingue,
ce grand mandingue,
tapait dans ses mains,
je tapais du pied,
le rythme était un,
ah.
Steve est mon frère, mais comme on n'a pas la même mère, Steve est mon frère, mais comme on n'a pas le même père, Steve est mon frère, mais comme on n'a pas la même mère.
Même si la rentrée est passée, l'été n'est pas terminé. Il y a beaucoup de choses qui sont typiques de l'été, les orages par exemple. Raymond Piccoli est astrophysicien, directeur du laboratoire de recherche sur la foudre.
Bonjour, je m'appelle Dalva, j'ai 8 ans et je voudrais savoir pourquoi les éclairs n'ont pas tous la même couleur.
Et nous aussi on se le demande, Dalva, merci. Nous avons proposé ta question à quelqu'un qui s'occupe des éclairs, des orages, un astrophysicien, directeur du laboratoire de recherche sur la foudre. Raymond Piccoli, pourquoi n'ont-ils pas tous la même couleur, vous demande Dalva.
Alors les éclairs n'ont pas tous la même couleur pour plusieurs raisons. Premièrement, ça va être dû à leur puissance, à leur distance également, à la distance qu'il va y avoir entre l'observateur et le phénomène lui-même. Mais par contre, le changement de couleur va nous apporter des éléments très intéressants et décisifs sur l'état de l'atmosphère. Par exemple, des éclairs qui vont paraître rouge-rosé, ça va être indicateur de très fortes précipitations. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau qui va tomber, il va y avoir des averses très fortes entre l'observateur et le cœur de l'orage. Des éclairs très bleus ou très très blancs, c'est signe d'orage sec. C'est très dangereux, un orage sec c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement des décharges de foudre sans précipitation. Ça, on peut le trouver à l'avant d'un front orageux, et c'est du reste des coups de foudre, donc des impacts de foudre généralement destructeurs et incendiaires. Ensuite, on va avoir des éclairs par exemple jaunes. Alors les éclairs plutôt jaunâtres, eh bien ça c'est des éclairs, j'allais dire entre guillemets, modernes. On les voit au-dessous de grandes zones urbaines ou industrielles, c'est les éclairs qui sont teintés par les molécules et les particules de pollution qu'ils traversent, et donc ça colore l'éclair. Moi je me souviens d'avoir vu des éclairs au-dessus d'une zone industrielle dans le sud de la France qui étaient pratiquement vert fluo.
Ah,
et ça, c'est dû à toutes les particules, aux centaines, j'allais dire, de millions de mètres cubes de polluants de toute nature qui sont dans l'atmosphère.
Donc voilà, les couleurs des éclairs viennent finalement de la nature
De l'air que la lumière va traverser. Et ça va nous indiquer beaucoup de choses par rapport à ça.
Vous nous redites en deux mots ce que c'est qu'un éclair, Raymond Piccoli?
Alors un éclair, c'est tout simplement une décharge qui va se produire soit entre le nuage et un autre nuage. Là, c'est un éclair, soit entre le nuage et le sol, et là, on l'appelle techniquement un coup de foudre.
Quel est le nuage qui produit de l'électricité en cas d'orage? Il y a un nuage particulier?
Le cumulonimbus.
Et que lui?
Que lui, qui est un phénomène extrêmement puissant et qui a la particularité de s'étaler sur tous les étages où se trouvent les nuages.
Ah d'accord, le cumulonimbus, il est vertical.
Absolument, on a trois étages définis. On a l'étage inférieur, hein, de 0 à 2-3 000 mètres. On a ensuite l'étage moyen avec un autre type de nuage. Et puis on a l'étage supérieur où là on a des nuages de type cirrus ou cirrocumulus qui eux peuvent monter à 13-14 000 mètres. Le cumulonimbus, il a l'avantage de parfois prendre sa naissance à quelques centaines de mètres du sol et d'aller collisionner les limites de la troposphère là-haut à 14, 15, 16 000 mètres. C'est vraiment un colosse. Et on a de l'eau, on a de la glace, on a encore de l'eau, on a encore de la glace. Et tout ça se répartit, crée les charges électriques et l'orage.
Frédéric Ancel, vous le connaissez bien, auditeur de France Inter. Il est docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po, professeur de relations internationales à l'ESG Management School. C'est tout à fait chic. Il est chevalier de l'Ordre du Mérite depuis 2009.
Bonjour, je m'appelle Nathanaël, j'ai 8 ans. Je voudrais savoir s'il existe des pays qui n'ont jamais fait la guerre. Merci, au revoir.
Je m'appelle Josué, j'ai 6 ans. Et je voudrais savoir s'il y a des pays qui n'ont pas eu la guerre. Merci.
Frédéric Ancel, Nathanaël et Josué qui parlent de pays où il n'y aurait jamais eu la guerre.
Ça, c'est le paradis. Hein. Là, il nous parle d'un paradis pas perdu pour tout le monde, perdu quand même pour la plupart des pays au monde qui ont fait au moins une fois la guerre. Pas tous. Alors, il y en a certains qui n'ont pas connu ou qui n'ont pas fait la guerre. Pour deux raisons. Soit parce qu'ils sont trop récents. Ils viennent de naître. Alors prenons un petit exemple simple en Amérique centrale, le Belize. Le Belize n'a jamais eu à faire la guerre, il est très récent et il a eu la chance d'avoir des voisins qui ne souhaitaient pas le croquer et il n'a pas eu à s'allier avec des pays qui eux-mêmes faisaient la guerre.
Mais quand vous dites, Frédéric Ancel, un pays récent, c'est un pays politiquement récent, il n'est pas sorti de l'eau comme ça l'année dernière.
Non, mais il y a des États qui se créent. Pas chaque année, mais presque en réalité. Hein. Il faut savoir que en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait 45 États indépendants. Il y en a aujourd'hui 200. Ah, il a bien fallu qu'ils se créent, ces États, avec la chute d'Empire, avec la chute de l'URSS, évidemment, etc. Donc, il y a des États qui sont très récents et qui, par conséquent, n'ont jamais encore connu la guerre et il faut espérer pour eux qu'ils ne la connaissent jamais. Et puis, il y a d'autres États qui ont eu la chance de ne pas la connaître directement sur leur sol. Donc, ils l'ont faite, mais eux, ils n'ont jamais été envahis. Je pense par exemple au Canada. Pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, le Canada intervient, envoie des soldats à l'étranger. Mais lui, protégé par les deux grands océans et les États-Unis qui sont évidemment amis, le Canada n'a jamais eu à subir la guerre chez lui. Donc il l'a faite à l'extérieur. Et puis, je dirais qu'il y a un troisième groupe de pays, alors c'est un groupe tout petit qui contient très peu de pays, dans lequel on trouve des États qui sont neutres. Alors on pense par exemple à la Suisse. La Confédération helvétique. Alors attention, il y a des États qui sont neutres et qui malheureusement sont quand même envahis. Par exemple, les Pays-Bas étaient neutres en 1940 et pourtant ils ont été envahis par l'Allemagne nazie. Mais la Confédération helvétique, la Suisse, neutre quand même depuis le début du XVIe siècle, hein, et oui, juste après Louis XI, eh bien les Suisses sont neutres. Et ils ont eu l'immense chance de n'être jamais envahis et eux ne veulent pas faire la guerre. Autrement dit, on ne trouvera pas de casque bleu suisse, on ne trouvera pas de force d'interposition suisse, et la Suisse n'est pas dans l'OTAN. Et d'ailleurs, je vais vous dire, elle n'est même pas dans les Nations Unies.
Mais il y a une armée suisse.
Absolument. Il y a une armée suisse qui, constitutionnellement, ne sort pas de ses frontières. Autrement dit, l'armée suisse, qui d'ailleurs est tout à fait sérieuse, qui concerne tous les citoyens, est une armée bien entraînée, bien équipée, qui ne sera ou qui ne serait un jour utilisée que s'il y avait une invasion sur la Confédération helvétique.
Et Frédéric Ancel, les pays des pôles Nord et Sud, la Norvège, l'Islande.
Alors la Norvège a eu à faire la guerre. D'abord, elle a été envahie par l'Allemagne nazie, elle aussi, en 1940. Hein, et puis au printemps 40, il y a eu des affrontements entre les forces franco-britanniques d'une part et allemandes d'autre part. C'est les Allemands qui ont gagné, comme on le sait. Et donc là, il y a eu la Norvège a été en guerre. Depuis, elle ne l'est plus. Mais la Norvège fait partie de l'OTAN, qui est une alliance militaire. Bien. Prenons le cas de la Suède. La Suède est également largement neutre depuis le XVIIIe siècle. Avant, elle faisait beaucoup la guerre. Elle a notamment envahi la Russie avant Napoléon. Ça a été d'ailleurs un échec, comme d'habitude, à chaque fois qu'on envahit la Russie. La Finlande est neutre. Mais bien qu'elle soit neutre, la Finlande a été attaquée par l'Union soviétique en 1940. Quant au pôle sud, il n'y a pas d'État. L'Antarctique est découpé en parts de camembert. Il y a 8 États qui disposent de ces glaces, mais il n'y a pas officiellement un État qui se trouve au pôle sud.
Merci Frédéric Ancel. Quand j'étais jeune, il y avait une blague face aux jeunes un peu désinvoltes. On disait il leur faudrait une bonne guerre. Il faut dire que c'était peace and love l'ambiance. Maintenant que l'ambiance est plutôt à la guerre et que les jeunes ne sont plus désinvoltes, cette blague, on l'entend plus. C'est le groupe britannique The Clash, perdu au supermarché, lost in the supermarket. Quel cauchemar!
Les petits bateaux sur France Inter.
Marie-Hélène Drivaud est lexicographe et directrice éditoriale au dictionnaire Le Robert.
Bonjour, je m'appelle Jean, j'ai 8 ans et je voudrais savoir d'où viennent les langues françaises, italiennes et tout ça. Merci de me répondre. Au revoir.
Bonsoir Jean, tu as une belle voix. D'où viennent les langues françaises, italiennes et tout ça? Demande Jean Marie-Hélène Drivaud.
Alors Jean nous parle du français et de l'italien, ça tombe bien parce que ce sont des langues qui ont la même origine. Elles viennent toutes les deux du latin et elles appartiennent à une famille qu'on appelle la famille des langues romanes, qui comprend également l'espagnol, le portugais et le roumain. Faut pas oublier le roumain, bien qu'il soit un petit peu éloigné de nous, hein, il est très oriental. Et également des langues régionales comme le corse, l'occitan, le romanche en Suisse, le wallon en Belgique. Tout ça, ça fait partie de la même famille des langues romanes. Alors, comment ça se fait que toutes ces langues appartiennent à la même famille? Eh bien, faut faire un petit peu d'histoire. Il faut remonter à l'Empire romain qui était très étendu, comme on sait, hein, comme tous les empires. Et les Romains avaient imposé le latin aux populations qu'ils avaient soumises. Mais comme ce territoire était très vaste, le latin a évolué différemment dans les différentes zones de l'Empire. Et ce latin populaire, vulgaire, c'est-à-dire la langue parlée par le peuple, hein, pas par des gens lettrés, a donné naissance progressivement à des langues nouvelles. Alors pourquoi elles se sont différenciées selon les zones? Eh bien parce que sous ces langues, il y avait des langues celtes qui étaient parlées précédemment, hein. C'était le cas en Espagne, en Gaule, en Ibérie à l'époque.
En Espagne, ils parlaient une langue celte?
Oui, oui. Et c'est ce qu'on va appeler le substrat, hein. C'était ce qu'il y avait avant. Et aussi, ces langues se sont différenciées parce qu'il y a eu des peuples qui se sont installés plus tard, qui ont influencé aussi. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler le superstrat, pour employer des mots de linguistes un peu savants. Et dans le cas de la France, ça va être une influence germanique très forte, par exemple. Et dans le cas du roumain, ça va être une influence slave.
Donc, le roumain est teinté de slave. Le français est teinté de germanique. En fait, les langues sont des métisses.
C'est-à-dire exactement, elles vont subir des influences donc de ce qui était précédemment et de ce qui va se passer plus tard. Le français, donc, c'est du latin fortement germanisé et également italianisé. Après, bon, il va y avoir des tas de couches qui vont se rajouter et ce sont pas des êtres purs, hein, les langues.
Personne.
C'est des êtres vivants et qui prennent un petit peu ce qui passe. Donc, le latin classique ne va plus être compris, on pense, à la fin du 8e siècle à peu près. Et là, on va parler en effet d'une nouvelle langue à chaque fois. Et on considère que le sarde et l'italien sont les langues les plus proches du latin d'origine et que le français, à l'inverse, est la langue qui s'en est le plus éloignée.
Ah bon?
Par exemple, si on prend le mot « eau » en français, hein, « e-a-u », ça vient du latin « aqua », A-Q-A. Et alors l'italien, c'est aqua aussi, mais avec un C. L'espagnol et le portugais, c'est « agua », donc c'est encore très proche. L'occitan, c'est « ega », qui va nous donner des mots comme aiguière, par exemple, le vase où on met l'eau, l'aigue marine, c'est l'eau de mer en fait, hein, c'est une pierre avec des reflets bleutés très transparentes, ou la ville d'Aigues Mortes dans le Midi, c'est une ville qui est entourée d'étangs et de marais, donc ce sont vraiment des eaux mortes. En catalan, c'est aigua, et en roumain, c'est apa. Donc on voit que cette racine aqua en latin a donné une descendance, bon, avec un air de famille pour tous ces mots, mais que le français est quand même très très éloigné, c'est celui qui s'est le plus déformé.
Merci Hélène Drivaud. Peut-être que j'ai la réponse à quelque chose qui m'intrigue depuis longtemps. Quand on voyage en Irlande, il y a des panneaux en anglais et des panneaux en gaélique. Eh bien, ce gaélique, figurez-vous que ça ressemble à l'espagnol. Les petits bâtons, c'est terminé pour ce soir, mais vous pouvez bien entendu nous rejoindre sur notre site où vous aurez un tas d'informations, les livres de Frédéric Ancel par exemple, et plein d'autres choses. Merci à Élise, Christophe, à Marjorie Devoucou, à Flora Bernard et à Jean-Baptiste Audibert. Nous nous retrouverons ce soir à 22h pour État d'esprit où je recevrai le docteur Lionel Coudron qui vient d'écrire chez Odile Jacob un petit livre passionnant consacré à l'anxiété.